Les médias francophones publics.
Radio France,
RTBF,
Radio Télévision Suisse,
Radio Canada.
Bonjour à tous, bienvenue dans la librairie francophone. Aujourd'hui, une grande artiste à la vie incroyable qui se confie sans tabou. L'hommage à un grand homme et un livre dessiné édifiant sur les massacres au Kivu. L'hommage à Charles Aznavour cette semaine donc avec un large extrait d'un entretien plein de sincérité réalisé dans la librairie francophone. Grand défenseur de la francophonie, il avait un regard global sur le monde. Elle publie un journal intime incroyable. Jane Birkin dit tout ou presque de sa vie singulière avec John, Serge, Jacques, Kate, Charlotte, Lou et toute la tribu Birkin. Bonjour Jane Birkin.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. On a tenu une promesse tous les deux.
Oui.
Cet été, vous m'aviez annoncé dans une autre émission que vous sortiez un livre, c'était au Francofolie de La Rochelle. Mmh. On s'était donné rendez-vous ici. Merci d'avoir tenu promesse, Jane.
C'est bien.
Replongez Merci. Dans ces souvenirs, Jane, c'est un peu éprouvant pour vous. Vous êtes du genre nostalgique ou pas du tout?
Oui, très nostalgique, mais c'était pas ça qui était éprouvant du tout. Il fallait traduire le tout en français.
Vous l'avez fait vous-même d'ailleurs, oui.
Oui, enfin, j'étais aidée beaucoup par quelqu'un qui était beaucoup à mes côtés, mais c'était trop correct. Donc après ça, j'ai refait un peu moins correct et ressemblant plus à ce que je dis en français pour les parties qui étaient en français.
Ouais.
Donc c'était long. Éprouvant, non, c'était non. Pas éprouvant. À part de voir qu'on a toujours les mêmes défauts, qu'on est irritante et...
Et capricieuse ou pas?
Chiante. si, c'est vrai.
C'est
vrai, parce que... Oui. Il y a que mon point de vue là.
Oui.
Mais maintenant, en le lisant, je me mets dans le point de vue de la personne en face. C'était pas drôle. Je vivrai pas avec moi.
On va revenir sur ces souvenirs avec vous. Jane Birkin est dans la librairie francophone cette semaine. C'est le grand retour de Jean Van Hamme, l'auteur belge de bande dessinée culte. 13, Torgal, Largo Winch, c'est lui. Et il publie avec Christophe Simon une BD reportage magistrale qui évoque le récent prix Nobel de la paix, le médecin Denis Mukwege, et qui dénonce les massacres au Kivu, des massacres motivés par le commerce du coltan, minerai précieux pour la fabrication de nos téléphones et tablettes.
La librairie francophone, Emmanuel Kérad.
Et les libraires sont en multiplex avec nous à travers le monde. En Suisse, on retrouve Laura Sanchez de la librairie du Boulevard à Genève. Bonjour Laura.
Bonjour Emmanuel.
Tout va bien?
Bonjour tout le monde. Oui, bien.
Bonjour Mathieu Colombe.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes libraire en France, vous à Aix-en-Provence, dans la librairie Goulard. Jérémy Laniel est libraire à Rosemère, dans la librairie Carcajou. Il représente le Canada, comme souvent ici. Bonjour Jérémy.
Bonjour Emmanuel.
Et en Belgique, c'est Déborah Damblon qui est cette semaine en duplex du Salon du Livre de Jeunesse à Bruxelles. Bonjour Déborah.
Bonjour Emmanuel.
C'est le premier salon du livre jeunesse à Bruxelles, paraît-il. Quelle est l'ambiance chez vous?
Eh ben, l'ambiance d'un salon du livre jeunesse avec des enfants qui défilent, qui regardent les livres, des profs, des chouettes gens, des belles expositions et des livres partout.
Bien, on en parlera ensemble avec un coup de cœur jeunesse. Ce sera pour notre séquence hebdomadaire autour des livres jeunesse. Déborah, ce salon se tient tout le week-end au plateau du Hesel. Bonjour Jean Van Hamme.
Bonjour.
C'est une bande dessinée édifiante. Un carnage se déroule sous les yeux du monde au Kivu. Des multinationales font carrément du trafic commercial pour acheter du coltan. Des groupes armés massacrent des villages. Tout le monde ferme les yeux. C'est atroce. Autant que le génocide rwandais. Nous en parlerons ensemble avec Christophe Simon tout à l'heure. Mais on commence cette émission par une anecdote personnelle étonnante. Que voulez-vous transmettre, Jean Van Hamme?
Je suis invité à nulle part ailleurs, assis à côté d'une jolie noire, très maquillée, très plastique.
Oui.
La question fuse, Jean Van Hamme, quel effet cela vous fait-il d'être assis à côté de Beyoncé? Je me tourne, je dis, écoutez, c'est toujours un plaisir d'être assis à côté d'une jolie femme.
Oui.
Froncement de sourcils. Jean, ne me dites pas que vous ne savez pas qui est Beyoncé. Malheureusement, je dois avouer que non.
Ah oui.
Je ne sais pas qui elle est. Murmure effaré dans l'assistance. Mais comme je suis certain qu'elle ne me connaît pas non plus, ben disons que ça fait 15 partout.
Vous avez fréquenté Beyoncé comme ça, vous?
Ben oui. Je ne savais pas qui c'était.
Vous connaissez Beyoncé, Jane Birkin?
Oui. Je n'étais pas assise à côté d'elle.
Non, mais par contre, je connais Jane Birkin. Je suis très content d'être en face d'elle.
Eh ben voilà, elle est face à vous. Parfait. Jean Van Damme est dans la librairie francophone cette semaine. Personne ne s'attendait à cette nouvelle aussi brutale, lapidaire, définitive. Charles Aznavour, encore en forme la semaine dernière, est parti soudainement dans la nuit en toute fin de week-end. Il laisse ses admirateurs et tous ceux qui se sont inspirés de sa vie pantois. À 94 ans, forcément, la vie a été longue et dense, mais pourtant, certains le croyaient invulnérable. Charles Aznavour, qui a gravi les échelons pas à pas, petit à petit, comme s'il avait toujours la vie devant lui, il a eu le temps de montrer ce dont il était capable, jusqu'à devenir l'un des chanteurs les plus connus au monde, avec cette double culture française et arménienne. Bardé d'honneur et de responsabilité, il cumulait les costumes et les identités culturelles ou même politiques. Aznavour restera un géant intrépide, souvent drôle et très généreux. Le respect du public et par transition le respect des journalistes, qui sont les passerelles avec le public, ont été des valeurs avec lesquelles il ne transigeait pas. Aznavour était venu dans la librairie francophone pour porter avec nous une autre valeur forte qu'il défendait, la francophonie. Voici un extrait d'un des grands entretiens qui ont marqué l'histoire de cette émission. Avec la chanson Charles Aznavour, est-ce que vous vouliez exprimer des choses avec des mots simples? Est-ce que c'est un genre littéraire populaire, la chanson? Peut-on dire cela?
La chanson est populaire. Toutes les chansons ne le sont pas. Moi, ce que je voulais, c'était... Bon, j'aime la peinture, le cinéma, le théâtre et la sculpture. Ben dans la chanson, il n'y avait rien de tout ça. Dans la chanson, il y avait les chansons d'amour qui étaient très très belles, mais il n'y avait pas de fond. Je pense qu'une des chansons, il y avait, pour moi, avait un fond formidable. Traînait, on a fait deux ou trois. Bon, quand il fait le jardin extraordinaire, etc., oui. Mais je me disais qu'il y avait des événements dans la vie qui étaient très importants et qu'on pouvait les écrire et les chanter. On m'a reproché ça au début. On m'a dit, tu es fou. On va pas t'écouter. Vous vous rendez compte de ce que j'ai chanté?
Mais c'est ce qui vous a rendu populaire, d'ailleurs.
Quand je suis arrivé une fois avec la prostate, le machin, le truc, ma femme m'a dit, tu vas pas chanter ça. J'ai dit, si, je vais le chanter. Et ils vont l'entendre. Et ils vont penser que ça va leur arriver aussi.
C'est ce qui vous a rapproché du public.
Oui.
Est-ce que vous êtes toujours un homme proche du peuple, Charles Aznavour? Un homme populaire au premier sens du terme?
Oui, je suis totalement populaire. Je suis un homme de la rue. D'abord, je ne sais pas. Il y a les mots qui m'énervent. Star, vedette, ça ne veut rien dire. Nous sommes des artisans. J'écris. Qu'est-ce que ça vient faire? J'ai pas de lunettes noires pour écrire. Hein.
Et même si aujourd'hui vous êtes ambassadeur officiel de l'Arménie en Suisse, même si vos chansons, votre nom est connu à travers le monde, vous n'avez jamais senti la tête enflée comme vous l'écrivez dans votre livre?
Non. Enfin, j'ai été grisé au début. Mais c'est pas la tête qui enfle, le grisé. Bon, j'ai voulu avoir une Rolls, puis j'ai eu une seconde Rolls, et puis après ceci. Et puis petit à petit, on jette tout. On en vient à l'essentiel.
Mais intellectuellement, artistiquement, vous ne vous êtes jamais senti un peu supérieur? Honnêtement, sérieusement?
Ben non, on peut pas.
Jamais. Se
sentir... Non, parce qu'il y a toujours quelqu'un qui est supérieur à vous, dans quelque domaine que ce soit. Je pouvais pas me sentir supérieur des gens que je fréquentais, qui étaient Marcel Achard, Jean Cocteau, etc. Non, traîner, tout ça, je me sentais... On ne peut pas se sentir supérieur.
Et aujourd'hui, quand on vous prend, pour exemple...
Supérieur, c'est la chute. Hein.
Donc vous restez en haut de l'affiche, tout le temps.
Oui, bah comme ça, j'y tiens, en plus.
En plus. Vous racontez que vous ne voulez pas vous arrêter. Voilà, que c'est comme ça et qu'il est hors de question de réduire le temps de travail, sauf à 35 heures. Vous dites, moi je travaille plus que 35 heures, c'est déjà pas mal.
Oui. Non, mais c'est pas ça. Si je m'arrête, il me reste plus qu'à mourir. Et ça, j'y tiens pas du tout, alors.
Oui, vous profiteriez bien de 1000 ans de plus, ce que j'ai lu.
1000, ce serait exagéré, mais...
Ah, vous le dites dans le bouquin, 1000 ans.
Oui, mais ça, c'est de
un petit millénaire.
C'est de la littérature. Mais une centaine, j'accepte.
D'accord.
Et vous savez pourquoi?
On va lui demander.
Pour voir ce qui va se passer. C'est-à-dire, je n'aimerais pas que mon regard meure.
Alors vous râlez pas mal dans ce livre, Charles Aznavour, vous attaquez les parasites qui entourent les célébrités, c'est votre propre terme.
Nous sommes des rois entourés de courtisans.
Ouais.
Bon.
Ça c'est un peu prétentieux.
C'est pas prétentieux, quand on n'en a plus.
Vous en avez encore, Charles Aznavour. Alors, vous attaquez aussi les pauvres veuves épleurées, les femmes endeuillées, femmes d'artistes, les émissions de télécrochets auxquelles vous avez pourtant participé, cela dit en passant, mais vous attaquez pas mal aussi ces académies de musique.
Non, mais je n'attaque pas l'émission, qui est une bonne émission de variété, j'attaque ce que l'on veut faire croire avec l'émission.
L'illusion.
Voilà.
Mais ce qui semble vous contrarier, Charles Aznavour, c'est que l'on s'éloigne un peu de la culture musicale, celle portée à l'époque par Jean Sablon, qui a vendu d'ailleurs des millions d'albums à travers le monde, on a oublié cela, mais c'est un très grand artiste, Maurice Chevalier aussi, que vous citez, qui faisait de longs voyages comme ça pour toucher tous les publics. Aujourd'hui, finalement, avec les médias, avec Internet, tout peut aller très vite, tout en restant dans son studio.
Il n'y a pas de compositeur, il y a des auteurs. Il y en a de plus en plus d'auteurs, on a de moins en moins de compositeurs. Il n'y a pas une grande mélodie depuis longtemps. Les derniers, ça doit être Michel Berger, Goldman, qui sont, vous le dites, ça doit être les derniers. Depuis, c'est une note, un mot, une note. Et alors les mots, je suis catastrophé de ce que j'entends.
Et vous dites, page 135, « J'en viens à penser qu'à l'heure de mon départ, je n'aurais pas terminé la tâche qui était la mienne. »
Non.
Qu'est-ce qu'il vous reste à accomplir dans cette vie d'artiste, Charles?
À trouver autre chose à dire, qui n'a pas été dit dans une chanson, entendons-nous bien. Je ne prétends pas amener quelque chose de littéraire dans la chanson, mais je prétends que j'amène des sujets qui ne sont pas employés dans la chanson, parce que, d'abord, ça serait trop long pour la publicité qu'on doit mettre entre les refrains. Une chanson de plus de 2 minutes n'a pas de chance. Concédant les chansons de 5 minutes, aucune chance. Alors, ne me dites pas d'histoire.
3 minutes, ça va.
Maxi. Ouais. Grand maxi.
Ce que vous aimez, c'est observer le monde, alors, c'est ça? Quand vous dites faire des choses nouvelles, c'est décrypter le monde comme il avance.
Oui. Ouais. Et puis après, il y a dû dire des choses qui ne se sont pas dites, qui n'ont jamais été dites dans la chanson. Pourquoi la chanson serait-elle un art mineur? Ça n'est pas un art mineur. Un art qui touche autant devient un art majeur.
Merci beaucoup, Charles Aznavour.
Merci
infiniment d'avoir participé à cette émission. À voix basse et publié aux éditions Don Quichotte, un livre confidence qui n'élude aucun sujet, on l'a dit, des coulisses de votre vie d'artiste à vos réflexions sur le temps, la mort ou encore la société. Des propos souvent délicats comme écrits grâce à une petite voix intérieure, une voix douce et confidentielle. Merci, monsieur Aznavour.
Merci.
Un extrait de cet entretien dans la librairie francophone en 2010 et ce livre de Charles Aznavour dont nous parlions est publié désormais en poche aux éditions Point. Jane Birkin, vous avez connu Charles Aznavour de près et de loin à travers Serge Gainsbourg qui était jaloux d'Aznavour, paraît-il.
Ah ça, j'en sais rien.
Si, c'est Charlotte qui a raconté ça, parce qu'elle l'écoutait en boucle quand elle avait 15
ans. Ah ça, ans. C'est vrai, quand Charlotte l'écoutait, elle écoutait chez moi. Je ne savais pas que ça, je le savais. Mais bon, mais parce que tu as des yeux bleus. Sège le chantait de Aznavour. Et Aznavour a chanté Sège pour le grand gala qu'on a pu donner pour le tsunami
du Japon.
Japonais. Ouais. Il a chanté la javanaise.
Ouais.
Je ne sais pas s'ils se sont connus beaucoup.
Pas tellement, je crois.
Ouais.
Mais il le disait sur scène d'ailleurs, parce que ce grand concert effectivement avait été organisé en 2011 par vous et par le regretté Bernard Chérès de France Inter,
absolument.
Qui était associé à l'événement. Et puis il a chanté la javanaise avec vous, côte à côte. J'ai revu la vidéo là, c'est assez étonnant. Ouais.
Ouais.
Et il dit d'ailleurs qu'ils ne se sont pas tellement croisés.
Non, je crois pas. Je crois pas. Je crois qu'il admirait évidemment Ferré. Et Aznavour, il y a eu tant de programmes sur lui, mais quelle affaire touchante quand on le voit à 6 ans, à 7 ans, gagnant le pain de la famille, qui est là en artiste, qui reçoit des insultes, mais des insultes sur son physique, sur sa voix. C'est impossible à imaginer.
Ouais.
Impossible. Je sais quand j'ai dit de la monnaie à Serge aussi pour qu'il s'en aille et qu'il se retire sa tronche de la scène. On me l'a raconté, des pièces de monnaie qu'après les gens venaient redemander. À le backstage, c'est quand même gonflé. Et alors les gens étaient beaucoup plus raides sur le physique. Alors, il avait raison, Aznavour, quand il a dit il faut jamais changer, il faut pas essayer de devenir autre chose, il faut persister avec votre marque, votre identité. Mmh. Et c'est ce qu'il a fait.
On va partir au Canada où Charles Aznavour était très apprécié. Jérémy Laniel, il était même citoyen d'honneur de Montréal.
Absolument. Charles Aznavour a beaucoup aimé La Belle Province et je crois que La Belle Province lui a très, très bien rendu durant cette immense carrière. Mon enfance a été bercée par Charles Aznavour. C'est l'un des grands chanteurs français qui est à peu près dans toutes les chaumières. Et le deuil national que vous avez autour d'Aznavour, bien, on le partage, je crois, pleinement à Montréal et partout au Québec.
Laura Sanchez, à Genève, Charles Aznavour était très connu et très respecté en tant qu'ambassadeur d'Arménie en Suisse, notamment.
Oui, et puis ben, c'est vrai qu'il était très lié à la Suisse pour plusieurs raisons. Il a déjà vécu longtemps dans différentes régions de Suisse romande, le Valais, le canton de Vaud, Genève. Il aimait beaucoup le lac Léman pour regarder la France d'un autre angle, disait-il. Il me semble que même deux de ses enfants vivent encore à Genève actuellement, où il y a une très forte communauté arménienne. Donc Charles Aznavour est venu pour la dernière fois en Suisse en avril dernier, figurez-vous. C'était pour l'inauguration d'un mémorial arménien qui a été installé dans un parc en ville de Genève. Et je pense effectivement qu'ici, le public suisse romand est très attaché à son œuvre, mais aussi à l'homme, puisqu'ils ont, certains d'entre eux ont eu la chance de le côtoyer dans son quotidien, très naturellement.
Jane Birkin, dans votre livre, vous parlez de votre arrivée à Paris, en provenance de votre Angleterre natale. Vous êtes hébergée au 67 boulevard Lannes, chez une dame qui héberge des jeunes filles, comme on le faisait à l'époque. C'est un immeuble bourgeois, face au bois de Boulogne, au 5e étage. J'ai pris des photos ce matin. Je ne sais pas si vous vous souvenez, donc, les voici.
Oui, oui,
je vous laisse
oui.
cette tablette, comme on dit, pour regarder. Et alors, il y a un lien avec Charles Aznavour, parce que dans cet immeuble habitait une certaine Édith Piaf.
Au rez-de-chaussée.
Voilà. Et quand vous arrivez, c'est la mort d'Édith Piaf.
Oui, c'est ça. Et tout d'un coup, la maison, enfin l'immeuble, était entouré de policiers, de barrières et de personnes qui venaient donner leur dernier respect à Piaf.
Et vous n'avez pas croisé Charles Aznavour, vous ne vous en souvenez pas peut-être, parce qu'il était là, c'est sûr.
C'est sûr.
Ben oui.
Non, mais nous on ne croisait pas le beau monde de le rez-de-chaussée. Serge aussi est venu quand elle était morte aussi. Ouais. Elle lui avait demandé d'écrire les chansons.
Ouais.
Alors, il n'a pas voulu.
Donc vous étiez tout en haut, là il y a les photos, on va les mettre sur internet. Tout en haut de l'immeuble, là au 5e, c'est ça?
Oui.
Les chambres qui sont en haut.
Oui.
On va poursuivre cette conversation avec vous, Jane Birkin, autour de ce journal intime, étonnant et sincère, juste après un duo et un titre de Charles Aznavour, interprété en 2008 avec Johnny Hallyday. Pas sûr que vous connaissiez cette version. La voici donc pour vous dans la librairie francophone. Charles Aznavour et Johnny Hallyday, il faut savoir.
Il faut savoir encore sourire. Quand le meilleur s'est retiré et qu'il ne reste que le pire dans une vie bête à pleurer. Il faut savoir, coûte que coûte, garder toute sa dignité. Malgré ce qu'il nous en coûte, s'en aller sans se retourner. Face au destin qui nous désarme, et devant le bonheur perdu, il faut savoir cacher. Il faut savoir quitter la table lorsque l'amour est desservi, sans s'accrocher l'air pitoyable et partir sans faire de bruit. Oh, il faut savoir cacher sa peine sous le masque de tous les jours et retenir les cris de haine qui sont les derniers mots d'amour. Il
faut savoir rester de glace et taire un cœur qui meurt déjà. Il faut savoir y garder la face.
Charles Aznavour et Johnny Hallyday, il faut savoir, sur la RTS, la RTBF, ici Radio-Canada et France Inter. Et nous reparlerons de Charles Aznavour la semaine prochaine depuis Erevan, en Arménie, où nous serons pour une émission spéciale. Je vous en reparle tout à l'heure dans le générique de fin.
Les médias francophones publics.
Radio France.
RTBF.
Radio-Canada.
Radio-Télévision Suisse.
La librairie francophone. Emmanuel Kérad.
Jane Birkin est avec nous pour son livre Monkey Diaries, publié chez Fayard. Il y a ce singe en peluche sur la couverture, Jane, un singe qui a toute une histoire. C'était votre confident et votre porte-bonheur.
Oui, il était très très vulgaire. Et
très vulgaire.
Mais oui, parce qu'il était gagné par mon oncle dans un tombola dans un pub.
Oui.
Il avait une barbe blanche, un chapeau coquet en écossais, des pantalons roses. Il s'est amélioré beaucoup avec l'âge et avec les repassements que j'ai pu faire avec ma grand-mère et les vêtements qu'on lui a donnés. Donc 20 ans, 30 ans plus tard, il était vraiment très distingué.
Il était fringant après.
Oui.
Même Serge Gainsbourg avait pris conscience de l'importance de ce singe qui vous a même fait rater un avion, car un jour vous l'avez oublié et Serge vous dit « retourne le chercher, il n'est pas question de prendre cet avion sans Monkey, trop dangereux ».
Mais oui, bien sûr. Et on a même regardé les valises et l'avion qui partait avec une très grande nervosité parce que le singe n'était pas dans leur avion non plus. Et moi je suis retournée 1h30, 2h de là pour chercher le singe, et il était sur une sorte de ceinture qui allait vers une ceinture électrique qui allait vers un fourneau, et je l'ai attrapé à la dernière
minute. Une déchetterie,
oui. Oui, j'avais donné Charlotte à le chauffeur de taxi, et quand je suis revenue avec le singe et tout ça, le maman de Serge avait dit « En plus !» parce qu'elle pensait que c'était un vrai singe, elle n'en revenait pas que toute cette histoire, l'avion, le tout, du coup, on s'est tapé la route pendant une dizaine d'heures pour aller à Cap Camara, oui.
Bon, vous racontez tout dans ce livre, Jane Birkin, vos difficultés à l'école, votre arrivée toute jeune en France, vos premiers rapports amoureux, votre famille bourgeoise, célèbre aussi, hein, votre mère est une grande comédienne, vous vivez dans un monde très très à part.
Non, c'était très anglais. Mon frère était envoyé en internat quand il avait 6 ans. Et moi, à ma demande, je suis partie à 12 ans avec ma petite sœur qui avait 8. Et sinon, les vacances étaient très sauvages dans l'île de Wight où on avait un cottage. On n'était pas très sophistiqués, au contraire.
Ouais.
Mon père venait d'une famille qui faisait le dentelle à Nottingham. Mais ma mère venait d'une famille d'acteurs.
Oui, c'est ça.
Et
elle vous donne cette fibre artistique que vous avez toujours eu au final.
Ben en fait, je suis pas comme elle. Elle était vraiment divine. Elle était cheveux noirs, très très grande, et une merveille de courage et de. Pendant la guerre, pendant qu'il y avait des bombardements à Londres, elle chantait sur scène avec Noel Coward, et elle chantait A Nightingale Sang in Berkeley Square. Et quand il y avait une bombe, elle mettait sa main autour de son oreille, ça faisait boum juste à côté, et puis elle redémarrait les chansons à la joie de toutes les gens qui étaient là. On m'a raconté ça plus tard, parce qu'elle est allée, après 9-11, chanter à New York, dans le Town Hall, pour eux, justement.
Alors, il y a cette histoire de famille, il y a l'histoire des hommes de votre vie aussi, Jane. Vous choisissez toujours des hommes plus âgés que vous. Le premier grand amour, c'est John Barry, grand compositeur, connu pour ses musiques de films, James Bond notamment, ou pour la série Amicalement Vôtre. Et vous dites même que vous ne pourrez pas aimer un autre homme que lui.
J'ai pensé ça à l'époque, oui.
Vous l'avez repensé avec Serge après?
Mais oui.
À chaque fois, vous dites ça.
Et vous, non?
Question piège, je sais pas. Si on peut dire ça tout le temps, à chaque fois.
Mais c'est pas tout le temps.
À un moment, on le dit peut-être pour la dernière fois, je crois, non ?
On dit quand ?
Bah, que c'est la fille ou l'homme que vous allez aimer le plus au monde. Et quand il ou elle disparaît, ben, c'est jamais pareil, non ?
Non, mais je l'ai cru chaque fois. Quand j'avais 17 ans et j'ai marié John Barry, je le trouvais tellement exceptionnel que je pouvais pas imaginer qu'il puisse s'intéresser à moi, qui n'avait aucune culture, qui était là en chanteuse, actrice, dans cette musicale qui était assez nulle. Et lui, il était, vous citez les choses comme James Bond et tout ça, mais en fait, il a eu 6 Oscars, ouais, Out of Africa, ouais. Danse avec les loups,
ah oui, c'est énorme.
Le Poursuite impitoyable avec Brando, enfin, c'est un très très grand musicien, et il n'avait pas le temps pour moi. J'étais une sorte d'enfant qu'il a épousé. Et
ça vous rend triste, ça ? Vous êtes sur le fil de la tristesse tout le temps, dans le désespoir.
J'étais triste qu'il ne pouvait pas raconter sa vie à moi, qu'il ne m'incluait pas dans sa vie. Et quand il revenait, il voulait juste dormir. Il en avait marre de cet enfant qui sanglotait à ses côtés. Et il m'a demandé d'aller dormir dans une autre chambre. J'étais sans doute chiant pour lui, hein, parce que franchement, quand je le lis et je l'imagine, lui qui est bien fatigué après une journée de travail, etc. Ouais. Mais il était très flirteur aussi, hein. Il est parti avec plein de monde. C'était assez dévastatrice.
Oui, vous le savez, ça, avec Nancy Sinatra, par exemple.
Je ne sais pas.
Mais enfin, vous dites, elle mange tous les hommes, donc c'est sûr qu'il va y aller, quoi. Il va flirter avec elle.
On ne pense jamais, en fait, que c'est vrai. C'était à la fin, quand j'ai su qu'il était parti à Rome avec quelqu'un et pas seul, que j'ai pris la décision de partir.
De partir, ouais. Alors c'est ça, et ça recommence un peu avec Serge. Alors Serge vous sauve d'une certaine façon, parce que vous êtes désespéré, vous vivez une vie différente avec lui, tout est génial, en même temps, parfois c'est violent, enfin, c'est un peu « je t'aime moi non plus », votre histoire d'amour avec Serge, avec John.
On a passé notre vie dans les boîtes de nuit, donc on était forcément bourrés. Et oui, bon. Je ne peux pas lui dire qu'il était le seul qui était bourré, moi aussi. Hein.
Alors vous battez un peu, enfin, y a des choses incroyables, c'est très étonnant. Oui. Hein. Ouais. C'est dur, c'est violent. Hein.
Bah, je ne sais pas ce que vivent les autres personnes, hein. Franchement.
Bah, il vous frappe quand même.
Et moi je lui ai foutu le premier tarte,
oui, une gifle. Oui.
Et une cigarette allumée. Donc franchement...
La BO de votre vie, c'est « Je t'aime, moi non plus », en fait.
Non, mais pas tout le temps. Il était très, très chou aussi. Ça, c'était juste. Et tu sais, quand tu écris ton journal intime, c'est assez injuste parce que tu écris quand tu es malheureuse, quand tu es triste, quand tu veux te plaindre. Et tu peux te plaindre à personne. Donc, voilà, c'est les plaintes.
Je t'aime. Je t'aime. Oui, je t'aime.
Cette chanson, à l'origine composée pour Brigitte Bardot, mais trop scandaleuse pour sortir, vous sera d'une certaine manière offerte. Offerte par Serge, qui la chantera avec vous et qui fera scandale avec vous, jusqu'à être banni par le pape.
Oui, le pape et le BBC.
Et la BBC.
Oui, Serge était ravi.
Oui, ça fait de la promotion.
Parce que c'est une pub, oui. Fantastique.
Alors vous commencez vraiment votre carrière comme ça, Jane Birkin, avec ce titre qui vous révèle au monde, avec le film Blow Up aussi, qui pour la première fois montrait du nu intégral de façon aussi explicite.
Ça c'était avant Serge.
Oui, avant Serge, oui. Donc et après Je t'aime moi non plus, donc forcément vous avez cette image assez sulfureuse.
En Angleterre, il mettait Jane Blow Up Birkin entre parenthèses, et après c'était Jane Je t'aime Birkin. C'est vrai que ça s'enchaînait dans les... Dans les entre-parenthèses.
Vous étiez un peu coquine, quoi.
Non, je n'étais pas coquine.
Ah si, un peu.
Non,
mais
non,
vous
non.
Le dites d'ailleurs. Hein.
Ah bon ?
Oui, sur le sexe, tout ça. Vous...
Ça, c'est pas coquine, ça, c'est vouloir tout savoir.
C'est vouloir... Il y a des petites scènes, un petit peu... Vous osez des choses, des expériences, enfin, c'est bien.
Ben, mais... J'espère. J'espère. Ben, surtout quand tu viens de... On oublie toujours les débuts des gens. Donc après un internat où vous étiez taquiné d'être à moitié garçon, que... que vous avez l'impression d'avoir déplu à la seule personne qui vous était vraiment important dans un mariage, etc. Vous imaginez comme c'est génial d'avoir deux pages nues dans un magazine où les gens te trouvent jolie.
Oui,
bien
oui.
sûr, ça s'enchaîne comme ça. Mmh. Et puis, je n'ai pas tombé avec quelqu'un qui n'aimait pas les scandales. J'étais
ça,
absolument ravie. Mmh.
Bon, il y a deux libraires qui ont lu votre livre, Jane Birkin, la Suisse et la France. On va commencer par qui ? La Suisse, ça vous va ?
Oui.
Oui, allons-y. Laura Sanchez.
Oui, et bien quelle vie incroyable, peuplée de célébrités qu'on a l'impression de croiser tout simplement au détour des pages. Moi, j'ai trouvé ce texte extraordinairement vivant, en fait, parce qu'il y a ce récit qui est touchant et tout en délicatesse. Mais en alternance, il y a des petits croquis pleins de fraîcheur, il y a des poèmes et puis des allusions à ce qu'il se passe dans le monde en même temps. Et puis, ben, moi, ce qui m'a complètement surprise et amusée, ce sont les scènes de vie de famille très joyeuses avec Serge, Kate et Charlotte, des goûters d'anniversaire, des repas et même des virées à ski.
Ouais, exactement. Oui. C'est souvent joyeux, très drôle. Hein. Il y a des passages un peu durs, mais c'est souvent.
Oh, écoute, moi, j'ai trouvé ça irrésistible. Et même, oui, il y a des moments où Serge retourne dans le Sartre pour voir la famille qui les a hébergés avant la guerre et que les personnes se souviennent de lui. Enfin, j'espère que c'est écrit joliment.
Oui, c'est ça. Oui, Mathieu Colomb pour la France. Confirmez-vous.
Oui, oui, quand même pas mal. C'est un livre qui est quand même très intime. Moi, je me retrouve plus dans la fiction, mais néanmoins, justement, ce côté très touchant et très personnel m'a vraiment interpellé. Parce que rien n'est caché, en fait. On prend cette vie de plein fouet, tant dans ses grandes joies que ses immenses peines. Alors, ce sera peut-être pas du goût de tout le monde, parce que on va quand même vers quelque chose qui vous concerne directement, mais je pense qu'il saura trouver son public, parce que vous êtes une icône nationale, chère Madame Birkin.
Merci.
Vous vous sentez icône nationale ?
Non.
Non ? Vraiment ?
Non.
Je vais vous poser la même question qu'à Charles Aznavour. Vraiment, vous n'avez jamais eu la tête qui enfle ?
Je ne vois pas pourquoi, parce que dans mon cas, moi, c'était généralement à cause de quelqu'un d'autre. Mmh. Si j'étais mis en lumière, c'était à cause de Serge. C'est à cause de les mettre en scène, à cause de les films de Jacques. Non, il n'y avait aucune raison.
Ouais.
Au contraire, je trouve ça plutôt extraordinaire d'avoir survécu aussi longtemps, ayant eu si peu de choses pour moi au départ.
Mmh. Cette période comme ça, quand vous rencontrez Gainsbourg, tout ce que vous vivez, alors vous dites une fois de plus que c'est l'homme que vous allez aimer le plus dans votre vie, et c'est vrai finalement, parce que jusqu'au bout, vous vous êtes côtoyé, vous vous êtes aimé, avec des histoires différentes, puisque vous vous séparez de lui, mais ça a été le moment le plus difficile pour vous, Jane, de vous séparer de Serge Gainsbourg ?
Le plus difficile, c'était sa mort. Oui, c'est... Enfin... Les séparations sont une complication rare que vous connaissez sans doute.
Oui.
Et on voudrait garder la personne qui vous était si chère pendant 13 ans, 14 ans. On veut le garder avec soi. Et c'est vraiment rare que ça puisse se faire.
Mmh. Mmh. Vous auriez adoré vivre avec Jacques Doyon et Serge Gainsbourg.
Mais c'est des idées qu'on se fait.
Ça, c'était le trio idéal pour
c'était
vous.
C'était les idées qu'on se fait assez bêtement. Oui,
et pourquoi assez bêtement ? Fallait le faire.
Ben non,
c'était pas d'accord.
Ça, j'aurais été pas d'accord, non.
Vous n'auriez pas été d'accord ?
Non, moi, oui, bien sûr.
Ah oui, Serge, non, oui.
Non. Non. Non, c'est les idées qu'on se fait. Quand je lisais ça, je me suis dit, mais mon Dieu, comment j'aurais pu imaginer ça ? Mais je l'ai imaginé, donc c'est là.
Ouais. Comment vous les vivez, ces souvenirs, Jane Birkin ? Comment vous surmontez comme ça la douleur, finalement, des disparitions de celles et ceux que vous avez tant aimés ? Est-ce que ça a été une façon d'exorciser des choses, d'écrire ce livre, de replonger dans les souvenirs ?
Oh non, c'était pas ça. J'avais espéré qu'il y avait assez d'anecdotes drôles et touchantes pour que ça vaut le coup. Je m'y attendais pas d'avoir la naissance de Kate et de la revoir avec le trait qu'elle avait dans son œil, que je pensais aller lui porter bonheur et chance toute sa vie.
Mmh.
Et ça, c'était vraiment très difficile à traduire et à faire.
À transmettre, oui.
De revivre et de... Voilà. Mais sinon, je pense que les portraits des enfants sont plutôt très justes. Celle de Charlotte, très juste. Et celle de Kate aussi, vraiment. Donc, il y a des morceaux de... Je n'ose pas dire écriture avec autant de auteurs autour de moi, mais c'est... J'espère qu'il y a assez de morceaux qui sont bien vus. Comme l'histoire de le petit négro,
La statue, il y a une petite statue que Serge veut acheter. Ouais. Il y a plein d'histoires, hein, plein d'anecdotes. On ne peut pas tout raconter, mais ça foisonne. Enfin, on pourrait rester une heure, hein, Jane. Ouais. Alors, ce qu'on va faire, c'est que ce livre, il s'arrête à la naissance de Lou. De Lou Doyon, oui. En 1982. Oui. On va se refaire une promesse, si vous acceptez. Vous reviendrez pour le deuxième volet.
D'accord.
Et on en racontera la suite. D'accord. Allez, on fait ça. Merci beaucoup, Jane Birkin.
Merci à toi.
Merci beaucoup. Monkey Diaries est paru aux éditions Fayard. Jane, nous allons écouter un titre extrait de votre album symphonique qui rend hommage à Serge Gainsbourg, sorti l'an dernier déjà. Voici la chanson de Prévert dans la librairie francophone.
Oh, je voudrais tant que tu te souviennes. Cette chanson était la tienne. C'était ta préférée, je crois. Qu'elle est de Prévert et Cosma. Et chaque fois, les feuilles mortes te rappellent mon souvenir. Jour après jour, les amants mentent, n'en finissent pas de mourir. Avec d'autres, bien sûr, je m'abandonne. Mais la chanson est monotone. Et peu à peu, je m'indiffère. À celle-là, il n'y a rien à faire. Car chaque fois, les feuilles mortes te rappellent mon souvenir. Jour après jour, les amants mentent, n'en finissent pas de mourir. Peut-on jamais savoir par où commence et quand finit l'indifférence? Passe l'automne, vient l'hiver et que la chanson de Prévert, cette chanson. De mon souvenir. Et ce jour-là, mes amants mentent, en auront fini de mourir. Et ce jour-là, mes amants mentent, en auront fini de mourir.
Avec la chanson de Prévert sur votre radio francophone.
La librairie francophone. Emmanuel Quérade.
Et la chronique des libraires avec les coups de cœur et les coups de gueule. Chaque semaine, nous vous proposons une séquence jeunesse. Déborah Damblon est en direct du Salon du Livre Jeunesse de Bruxelles. Un coup de cœur parmi tous les livres qui vous entourent, Déborah.
Parmi tous les livres qui m'entourent, Emmanuel, je vais vous parler d'une grenouille et d'un bœuf. Ça vous dit quelque chose, le bœuf, la grenouille?
Oui, vaguement, hein, ça évoque La Fontaine, non?
Vaguement, ben oui, la fable de La Fontaine. Eh ben non, je ne vais pas vous parler de la fable de La Fontaine, Emmanuel. Je vais vous parler d'une fable à ma fontaine. Et les fables à ma fontaine, eh ben ce sont des facéties joyeuses de Dominique Descamps, dans lesquelles elle revisite les fables qu'on a apprises péniblement parfois à l'école. Et le texte, il est brillant, il est joyeux. Les gravures, elles sont tellement pétillantes qu'on a l'impression de voir le bœuf et la grenouille se courir après d'une page à l'autre, et c'est vraiment un livre comme on les aime, parce que ça relie les familles et tout le monde les lit ensemble.
Bien, vous allez conseiller donc ce livre à tous les enfants qui sont autour de vous en ce moment même au salon.
Mais autour de moi et partout, Emmanuel, il faut les fables à ma façon à tous les enfants du monde.
Et il faut aller voir Déborah donc au Salon du Livre Jeunesse de Bruxelles. Merci Déborah. Le bœuf et la grenouille, fable à ma fontaine aux éditions Les Grandes Personnes. Au Canada, dans le rayon des livres de poésie, notre spécialiste en chef, c'est Jérémy Laniel, avec évidemment un coup de cœur poésie, Jérémy.
Absolument. La poésie des herbes rouges, c'est une anthologie publiée par Roxane Desjardins et Jean-Simon Desrochers, bien sûr, aux Herbes Rouges. Ça retrace les 50 années de publication de cette maison d'édition qui est vraiment la référence en poésie québécoise. Desjardins et Desrochers tissent une courte pointe, vraiment de poème en poème, à travers les près de 400 œuvres qui ont été publiées aux Herbes Rouges. Et donc, c'est vraiment une somme que ce livre, c'est une nécessité dans le paysage littéraire québécois que cette anthologie des Herbes Rouges.
Bien. Merci Jérémy. Laura Sanchez pour La Suisse, un coup de gueule.
Ah oui, un coup de gueule pour un roman qui aurait pu être un bon roman. Alors, un trio de sœurs avec chacune leur problématique, leur questionnement autour de leur féminité, mais sous des angles originaux. Mais là où ce livre me déçoit, c'est qu'on sent qu'il aurait pu être bien meilleur, mais qu'il a manqué une dernière session de travail pour resserrer l'écriture, resserrer cette intrigue. Alors, je ne sais pas, allez-y quand même et on en discute. Ça s'appelle Le Bus. C'est signé Mélanie Richaud et c'est paru chez Slatkin.
Très bien, merci Laura. On termine avec la France. Et c'est un coup de gueule aussi, Mathieu Colombe.
Oui, 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 ça va être un coup de gueule et je vais crier sur un tournant de la vie de Christine Angot. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au départ, je voulais pas faire de coup de gueule sur Christine Angot parce que je me disais que bon, ben, tout le monde allait le faire vu l'actualité qu'elle a.
Et donc, ce quelle actualité un peu parce qu'elle était sur la télévision française.
Oui, oui, voilà, exactement.
Dans une émission et critique.
Donc voilà, donc elle ne s'est pas fait que des amis, donc je pensais bien que voilà. Et donc, effectivement, ça allait être très dur pour elle. Et un de mes collègues m'a suggéré fort à propos de le lire. Et donc, je l'ai lu. Alors, par quoi est-ce qu'on peut commencer? Bon, on peut commencer par les personnages qui vont vous rendre fou, si jamais vous lisez ce livre, parce que ce sont des gens qui ont une cinquantaine d'années au compteur, hein, facilement, mais qui réfléchissent comme des adolescents prépubères. Donc, c'est assez compliqué à voir dans son ensemble. Ensuite, il y a le registre lexical qui, alors, je veux bien qu'on fasse quelque chose qui retransmet l'inanité de la vie, qu'on utilise le français parlé, mais là, c'est vraiment très parlé. C'est-à-dire qu'il y a très, très peu de vocabulaire. Grammaticalement, c'est très éprouvant à lire. Et enfin, le scénario, je me suis rarement autant ennuyé en lisant quelque chose.
Voilà. Bien. Donc c'est mal écrit, c'est mal construit, c'est enfin, ça. L'histoire
pas
est nulle.
C'est pas bien écrit.
C'est ce que vous êtes en train de dire.
Oui, voilà, oui, oui, oui. Oui. Très bien. Et pourtant c'est un écrivain dont je pouvais reconnaître les qualités ouais. À une époque parce qu'elle savait transmettre une certaine émotion, mais là c'est pas bon quoi.
C'est raté. Bon, on va se faire une amie avec Christine Angot, qui se permet quand même de critiquer du coup des auteurs dans cette émission de télévision. Et c'est ça qui est magnifique dans ce métier, c'est que des écrivains, des auteurs critiquent à la télévision, dans des journaux, d'autres collègues écrivains. Et là, on a un petit problème. En tout cas, c'est mon avis, c'est mon coup de gueule. Merci beaucoup Mathieu Colombe.
La librairie francophone, une émission coproduite par les médias francophones publics.
RTS La Première.
Ici Radio-Canada Première.
RTBF La Première.
France Inter.
Jean Van Am et Christophe Simon sont dans la librairie francophone pour Qui vous paru aux éditions du Lombard. Ce récit s'inspire d'une réalité terrifiante en République démocratique du Congo, au bord du lac Kivu, à la frontière avec le Rwanda. Des villages sont massacrés pour s'approprier des terrains que l'on exploite pour le coltan. Alors Jean Van Am, c'est la première fois que vous réalisez une bande dessinée presque reportage. L'Argo Winch évoquait le monde de la finance, mais là, on est pleinement dans le réel. Ça existe vraiment, tout existe.
Chaque fois que vous allumez votre portable ou votre tablette, un gamin, un enfant se fait violer et une femme se fait mutiler au Kivu. C'est le bon résumé de toute l'affaire. En fait, on massacre moins que vous le dites, on mutile beaucoup plus. Essentiellement les femmes qui sont violées, qui sont mutilées d'une façon atroce à la machette, à la baïonnette rouillée. Et quand je dis les femmes, ce sont aussi des gosses, des gamines de 3 ans, des gamines de 15 mois. C'est terrifiant. Le but est évidemment de les chasser par la terreur pour s'emparer de leur terre, puisque ce pays qui était agricole et qui était superbe, j'y suis allé dans les années 50, recèle des minéraux extrêmement rares, précieux et essentiels, vous l'avez dit vous-même, pour la fabrication de tout ce qui est informatique, ordinateur,
voilà,
tablette.
Voilà, tout est là. Tout est là.
Tout est là et on ne fait rien. Si, on a fait une chose, c'est la création de l'hôpital Panzi par le docteur Denis Mukwege, qui est originaire du Kivu, qui a fait ses études en France, qui est gynécologue et devenu par la suite chirurgien.
Et qui sauve comme ça les femmes violées et mutilées.
Bien entendu.
Christophe Simon, vous êtes parti là-bas, vous, pendant 8 jours. Vous avez vu tout ce que vous racontez, tout ce que vous dessinez, parce qu'il y a des scènes atroces. Alors, vous ne dessinez pas tout, hein. Il faut le savoir. C'est-à-dire que vous racontez, alors il y a des scènes horribles, hein. Il y a des moments comme ça racontés par vos personnages qui sont horribles. Vous ne dessinez pas exactement la réalité de la scène, parce que sinon ce serait impossible à lire, à voir. Mais vous avez vu tout ça, vous, dans cet hôpital, gardé par des casques bleus, tout ça, c'est vrai?
Oui, oui, bien sûr. Et enfin, oui, ça va même au-delà. Enfin, quand on se retrouve confronté, j'avais accès aux salles d'opération. Hein, donc, j'accompagnais le docteur Guy Bernard Cadière, qui va régulièrement prêter main forte au docteur Mukwege.
C'est un médecin belge, oui.
C'est un médecin belge, oui. Et donc, j'accompagnais son équipe. Toutes ces images-là, je les ai vues. J'ai vu le regard de ces femmes qu'on sort des ambulances parce qu'au péril de leur vie, il y a des volontaires qui vont sillonner les campagnes pour trouver ces femmes qui retrouvent à l'odeur. Et puis, ils les ramènent à Panzi.
À l'odeur?
Oui. Oui. Oui, parce que le fait qu'elles sont, enfin, le but de la mutilation, c'est l'humiliation. Donc, il les perce, donc le rectum, le vagin, tout communique. Et donc, c'est voilà.
C'est horrible, hein, vraiment.
Oui,
c'est,
il n'y a plus de sphincter, donc voilà. Et ça sent très mauvais. Et pour elles-mêmes, c'est la honte, elles sont rejetées de leur village.
C'est ça. Alors justement, on va écouter le docteur Denis Mukwege, qui vient d'obtenir le prix Nobel de la paix et qui témoigne sur ces viols. On a retrouvé son témoignage.
Le viol a été utilisé comme une arme de guerre au Congo et c'est une arme très efficace puisque lorsque le viol se commet en public, ce viol est collectif. Ça détruit non seulement la victime, mais ça détruit également l'entourage. Et souvent, en fait, il y a la victime directe qui est la femme qui a été violée, mais ses enfants, le mari, tout son entourage est traumatisé.
Voilà, tout est dit avec ce médecin prix Nobel de la paix depuis vendredi. Un vrai dieu là-bas, tout le monde le respecte, enfin il sauve énormément de vies.
Au Kivu, mais pas dans le reste du Congo.
Eh oui, évidemment, oui. Oui.
C'est ça toute la difficulté de la chose. Parce que vous avez presque 2 millions de pirates, là, de rebelles, comme ils les appellent, qui sévissent. Je crois qu'il y a 324 bandes armées qui courent dans tous les coins pour récolter ce coltan, le manganèse, l'étain, voilà.
On va parler de ces enfants avec vous, Jean Van Hamme et Christophe Simon. Nous allons donner la parole à nos libraires. Deux ont lu cette bande dessinée. Il y a le Canada et la Belgique. On va commencer avec Jérémy Laniel au Québec, qui est très dur avec cette bande dessinée. Apparemment, ça ne passe pas. Et vous allez nous expliquer pourquoi. On ne va pas être d'accord, je sens.
Oui, effectivement. J'ai trouvé que juste à la conversation qu'on vient d'avoir, l'histoire, le réel est tellement fort, est tellement dérangeant que j'ai trouvé que la fiction était faible aux côtés des faits réels. J'aurais vraiment préféré aller plus dans le documentaire, dans les passages à l'hôpital qui sont vraiment intéressants. Mais à d'autres moments, je trouve que ces arcs documentaires s'immiscent très mal dans les arcs narratifs de la fiction qui a été créée. Donc ça, j'ai trouvé ça un peu dommage de ce côté-là.
Bien. Moi, je l'aime bien, cette fiction, parce qu'il y a un jeune homme comme ça qui va être envoyé en mission là-bas. Il est un peu idéaliste et puis il va découvrir des choses sur place. Le drame qui se joue et à quel point chacun est en danger, y compris lui-même. Et ça, c'est la patte de Jean Van Hamme avec 13, avec Largo Winch. On retrouve ce personnage et je trouve que ça s'associe parfaitement. Voilà, c'est mon avis. On va voir du côté de Déborah Damblon en Belgique si elle est d'accord avec moi ou avec Jérémy Laniel.
Bah allez, c'est pas pour faire la chouchoute, mais avec vous Emmanuel, hein, parce que qui a dit que la BD c'était que pour les enfants? Et puis qui a dit que la BD c'était léger, c'était facile à lire? Et qui a dit que la BD c'était pas de la littérature? Et ben moi je propose qu'à ceux-là, on leur fasse lire Kivu. Et puis ils verront ce que c'est que d'être courageux. Ils verront que quand la bande dessinée ouvre l'esprit et les yeux, eh bien elle s'appelle Kivu. Alors qu'on la fasse lire au plus grand nombre et que plus jamais, mais jamais, on puisse dire qu'on savait pas.
C'est exactement le but.
C'est ça,
oui. Chère madame.
C'est de dénoncer, vous le faites parfaitement, vous montrez qu'il y a comme ça cette guerre non officielle là-bas, couverte par les États et les multinationales, car dans la région du Kivu, il y a un sol très riche en coltan. C'est très documenté, hein, d'ailleurs, Christophe Simon, là, grâce au scénariste Jean Van Hamme, mais vous le dessinez très bien, vous expliquez précisément ce qu'est le coltan, son utilisation pour les smartphones, pour les tablettes, et c'est dire si les enjeux économiques sont énormes.
Mais je pense que c'est là le drame de cette région et de ce qui s'y passe et du fait aussi qu'on ferme les yeux, c'est qu'il y a tellement d'intérêts en jeu.
On rentre comment, dans quel état d'un voyage comme celui-ci, Christophe? Comment on fait?
Abîmé, hein.
Alors, maltraite les enfants de deux façons différentes. Soit parce qu'ils sont envoyés dans les mines, comme ça, parce qu'avec leurs petites mains, ils arrivent à mieux récupérer ce minerai. Soit parce qu'on les force à devenir enfants-soldats. Alors, il y a le médecin belge qui raconte ça. Ouais. Cette anecdote que je vais raconter pour que vous preniez la mesure, mais c'est vrai que c'est très dur. Hein. Cet enfant, en fait, apprenti soldat, est forcé par des hommes, des monstres, de couper les seins de sa mère et de les manger devant son père. Et ça les traumatise à tel point que ces enfants-là deviennent fous. Et ils deviennent hors du temps. Il ne leur reste que la drogue et la fuite, en fait. Et vous le montrez, ça, dans la BD.
Mmh. Oui, mais au début, hein, les enfants qui vont tenter de violer Violette, s'ils n'y vont pas, c'est eux qui sont...
Mmh. Oui, ils sont violés.
Ou tués, ou tués, torturés.
Oh oui, on leur coupe le nez, les oreilles, au choix. Mmh.
Il y a quelqu'un que vous connaissez sans doute, Jean Van Am, c'est Jean Ziegler, qui dénonçait déjà cette exploitation du coltan qui fait de nombreuses victimes, et notamment parmi les enfants. Donc, il était à notre micro dans la librairie francophone estivale cet été, écoutez.
Le coltan se trouve dans l'est du Congo, par exemple, avec des puits très étroits. Et seuls des enfants au corps mince, peuvent aller dans ces puits. Donc, c'est des enfants qui pourront... essayer que leur propre famille meure de faim dans les villages alentours, acceptent cette chose totalement horrible de risquer leur vie dans ces puits qui s'effondrent et beaucoup d'enfants...
Et des enfants meurent tous les jours, là encore.
Pour sortir ce coltan, vous n'auriez pas ces tablettes dans la main si des enfants n'étaient pas morts ou risquaient leur vie, etc. Alors que nous pourrions, par l'insurrection de la conscience, arrêter ce massacre, donner la vie à ces enfants.
Jean Van Am.
Ben, écoutez, Ziegler, que tout le monde a lu, tout le monde connaît, pour dénoncer certaines pratiques financières aussi de son propre pays, là, il touche quelque chose qui est très peu connu. Honnêtement, avant que le docteur Cadière me demande d'en faire quelque chose, je n'en avais pratiquement pas entendu parler. Mais on parle de la Syrie, évidemment, tous les jours. On parle du Yémen une fois par semaine. On parle de l'Iran, on parle de plein de choses. Mais le Kivu, on n'en parle pas. Secret, motus. Alors, pourquoi secret ? Parce que je crois que le gouvernement central du Congo bloque l'affaire.
Voilà, il faut lire absolument cette bande dessinée que nous avons ici sur la table. Simon et Van Am avec Kivu aux éditions du Lombard. Merci beaucoup Jean, merci infiniment. Merci Christophe.
Merci de nous avoir invités.
À très bientôt.
La librairie francophone, Emmanuel Kérad.
Avant de conclure, on se détend avec un coup de pouce à une découverte musicale. Voici Pat Kala qui reprend un tube de la chanson africaine francophone.
Weblé, Weblé.
Kala qui reprend Zao avec un extrait d'Anciens combattants, titre que vous pouvez retrouver en intégralité sur Internet. Et c'est la fin de cette édition. Je vous retrouve sur Facebook et Twitter pour communiquer avec vous. À la réalisation, Hélène Bisio avec Paul Percheron. À la rédaction, Jean-Philippe Verret avec Christophe Magère en France. Martine Béguin-Felé et Annick Chouin en Suisse. René Mikkels avec Valérie Lepute en Belgique. Jacqueline Castonguet et Sylvie Julien au Canada. La semaine prochaine, émission spéciale depuis Erevan en Arménie dans le cadre du sommet de la francophonie. Nous allons vous faire vivre la ville et cet événement avec de grands auteurs. À ne pas manquer, la librairie francophone en Arménie la semaine prochaine. Merci pour votre fidélité, bonne semaine et bon week-end.